Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le président du Sénégal, aux prises avec des accusations de corruption visant l'un de ses frères, quelle marge de manœuvre pour Macky Sall ? Nous poserons la question à notre correspondant à Dakar, William Deleuceux. Que reste-t-il du berceau de la révolte pacifique au Soudan, 4 jours après le massacre perpétré par des milices paramilitaires ? Récit de Sylvain Nemeth. Après l'annulation de l'alliance Fiat-Chrysler, Renault, le constructeur français, ambitionne de consolider sa liaison avec Nissan. Explication de Manon Derdevet. Et puis la Bulle Écho de ce samedi, signée Marie Viennot, s'intéresse opportunément à l'expansion constante du trafic maritime aujourd'hui. Marche mondiale pour la sauvegarde des océans. Faillite morale, ce président ne respecte pas son peuple. Les manchettes des quotidiens sénégalais ne donnent pas dans la nuance. Après de nouvelles accusations de corruption portées cette fois contre l'un des frères de Macky Sall, il s'agit encore et toujours de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières du Sénégal. La BBC a en effet révélé il y a peu qu'une société contrôlée par Aliou Sall avait touché des fonds versés par une entreprise détenue par un homme d'affaires australo-roumain auquel on a attribué le contrôle de 2 champs d'hydrocarbures. Bonjour William Deleuceux.
Bonjour.
En direct de Dakar, William, la gestion de cette affaire s'annonce délibérément délicate pour le pouvoir.
Oui, très délicate Mathieu, puisque le pétrole, je vous le rappelle, doit être exploité dès 2022 au Sénégal. Macky Sall a toujours fait de la transparence sur ce dossier de la fin des mécanismes de corruption. 2 arguments électoraux. L'enquête de la BBC a évoqué des transactions nouées afin d'exploiter 2 gisements d'hydrocarbures offshore. D'après la chaîne britannique, le frère du président sénégalais Macky Sall aurait touché 250 000 dollars de la part d'un sulfureux intermédiaire de BP. Il s'appelle Franck Timis. Tous deux sont désormais accusés de corruption. Et cette affaire rejaillit sur le pouvoir. Désormais, c'est un début de crise politique. Le pouvoir panique, a dit l'opposant Ousmane Sonko, le 3e homme de la présidentielle. Il accuse le président d'être directement responsable de cette corruption.
Alors justement, William Deleuceux, Macky Sall a-t-il les appuis nécessaires pour surmonter cet obstacle ?
Alors, son score à la présidentielle a quand même été très important, près de 60% des voix. Il bénéficie d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Et la meilleure défense, pour le moment, c'est l'attaque. Le président Macky Sall a réagi lui-même en début de semaine. Puis le gouvernement a fait une déclaration fleuve, non pas pour répondre à l'enquête, mais davantage pour charger la BBC, la chaîne britannique accusée par le pouvoir directement de diffuser des contre-vérités. Mais Aliou Sall, le frère du président, n'a pas démissionné de son poste. Il est toujours le directeur de la stratégique Caisse des dépôts et consignations.
Merci à vous, William Deleuceux, en direct de Dakar. Complexe par définition, la médiation menée depuis hier par le Premier ministre éthiopien à Khartoum. Complexe et enrichi, si l'on peut dire, des arrestations hier soir de 2 figures de la contestation appréhendées par des hommes armés juste après leur échange avec Abiy Ahmed. Voilà qui fait désordre, d'autant que le traumatisme est tel qu'Abiy Ahmed ne peut faire l'économie de répondre aux colères citoyennes. La rue veut en effet exige l'ouverture d'une enquête internationale sur le massacre de lundi dernier. Que reste-t-il justement du sit-in ? Depuis début avril, le cœur de la révolution, situé devant le QG de l'armée à Khartoum, était occupé jour et nuit par des milliers de manifestants. Il y avait installé des tentes, des scènes pour réclamer pacifiquement et dans une ambiance de fête permanente un pouvoir civil. Mais lundi, des soldats, principalement membres de la milice paramilitaire FSR, ont attaqué ce symbole de la résistance pacifique, faisant plus d'une centaine de morts. L'envoyé spécial de RFI, Sébastien Nemeth, a pu retourner sur les lieux.
Tas de gravats, restes de chaises, détritus, il ne reste quasiment plus rien du symbole de la révolution. Les fameuses tentes qui représentaient des associations, des villes, des corporations ont disparu. Tout juste, on devine des traces de cendres aux emplacements où elles ont brûlé. Par terre, les dessins tracés à la craie pour glorifier la révolution sont toujours là, mais les dessinateurs, eux, ont disparu. Lorsqu'on regarde à l'intérieur du sit-in, on peut voir des dizaines d'hommes armés d'AK-47 en uniforme des FSR ou des troupes régulières. À côté d'eux, une masse de véhicules militaires équipés de mitrailleuses et de canons. L'ambiance est quasi mortuaire, rien à voir avec l'atmosphère de fête permanente qu'on avait durant le sit-in. Sans arrêt, on entendait de la musique, des chants, des slogans proclamés. Aujourd'hui, c'est le silence. Il y a encore moins d'une semaine, après la tombée de la nuit, plusieurs milliers de manifestants se réunissaient pacifiquement devant l'entrée du QG de l'armée pour chanter des demandes de transmission du pouvoir aux civils. Aujourd'hui, ces chants se sont tus.
Un tribunal moscovite inculpe pour trafic de drogue Ivan Golunov, journaliste pour le média indépendant Line Medusa, qui rejette les accusations portées contre lui. Dès son arrestation, hier, il a reçu le soutien de consoeurs et de confrères. L'organisation Reporters sans frontières a averti que cette arrestation pourrait marquer une escalade significative dans la persécution des journalistes indépendants en Russie. Donald Trump plastronne après l'accord signé par son administration et la présidence mexicaine. Le président des États-Unis renonce aux surtaxes douanières qu'il envisageait d'appliquer lundi prochain. Son homologue mexicain se serait engagé, je cite, à réduire grandement ou éliminer, sic, l'immigration clandestine. Fin de citation. Nouvelle manifestation de l'opposition ce samedi en Albanie. Depuis le début de l'année, droite et gauche ont à plusieurs reprises fait descendre des milliers de personnes dans les rues de Tirana, dans un climat parfois tendu. Ils exigent le départ du Premier ministre, accusé de lien avec le crime organisé. Explication de Marie-Pierre Véraud.
À chaque manifestation, les cocktails Molotov et les noms d'oiseaux volent aux abords du Parlement, où les protestataires ne se privent pas de traiter le Premier ministre Edi Rama de corrompu, mafieux, voleur. Ce dernier leur répond par le mépris. Il entend bien organiser les élections municipales à la fin du mois, malgré le boycott de l'opposition, dont les députés ont déjà démissionné du Parlement, exigent un gouvernement de transition et des législatives anticipées. Une instabilité politique regardée avec inquiétude à Bruxelles, alors que la Commission plaide pour l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Albanie, en raison notamment des efforts de Tirana pour réformer son système judiciaire. Mais le parti démocratique de droite, qui mène la fronde, dénonce l'influence du crime organisé et le risque d'achat de voix. Dans le dernier classement de Transparency International, l'Albanie descend à la 99e place et apparaît comme l'un des trois pays européens les plus corrompus. L'ancien ministre de l'Intérieur, notamment, est poursuivi pour trafic de drogue. Le FMI s'est aussi montré critique envers les partenariats publics-privés. Le crime organisé est toujours bien implanté et l'émigration massive. Malgré les promesses de réduction des inégalités, l'Albanie reste l'un des pays les plus pauvres du continent.
Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. L'annulation de la fusion entre Fiat, Chrysler et Renault a du mal à passer. Le groupe italo-américain a en effet annoncé mercredi le retrait immédiat de son offre de fusion à 30 milliards d'euros avec le français. Renault se tourne donc vers son allié depuis 20 ans, Nissan. Hier au Japon, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit à nouveau prêt à réduire la part de l'État de 15% au capital de Renault. Bonjour Manon Derdevet.
Bonjour, bonjour à tous.
Manon, il s'agit par-dessus tout, si je le comprends bien, de consolider cette alliance avec Nissan.
Oui, la priorité pour Bruno Le Maire, c'est de stabiliser les relations entre Renault et Nissan Mitsubishi pour éviter l'effondrement du château de cartes et assurer l'avenir de Renault. L'État français est le premier actionnaire du groupe. Alors, la place de l'État est au sujet de nombreuses frictions, de manière récurrente entre les deux alliés. S'il se désengage en partie, l'équilibre entre les alliés franco-japonais serait donc renforcé et les centaines de milliers d'emplois du groupe préservés. C'est en tout cas ce qu'espère le ministre de l'économie. Cette annonce en marge du G20 Finance à Fukuoka dans le sud-ouest du Japon a donc vocation à regagner la confiance des dirigeants de Nissan. Et c'est d'autant plus important que les relations entre Renault et le constructeur japonais sont au plus mal. D'abord parce qu'ils ont très mal pris de n'avoir pas été mis au courant du projet d'une possible fusion entre Renault et Fiat Chrysler, mais aussi parce que ce mariage arrive à un moment où les relations entre Nissan et Renault sont au plus mal depuis l'affaire des malversations présumées du bâtisseur du partenariat franco-japonais Carlos Ghosn.
Mais quid, Manon, de la réouverture des négociations en vue d'une future fusion avec Fiat Chrysler, exclue ou pas exclue ?
Eh bien, la réouverture des négociations n'est pas exclue, mais il faut surtout pas se précipiter. Hier, Bruno Le Maire a affirmé, je cite, être ouvert à toutes les possibilités de consolidation sous réserve que l'ensemble des partenaires soient d'accord. Pour l'État, la préservation de l'alliance est au cœur de l'échec des négociations entre le groupe italo-américain et Renault. Ne lançons pas des opérations de manière bancale et précipité, selon lui. Pas question pour autant d'envisager non plus pour le moment une fusion entre Renault et Nissan. Je ne crois pas du tout que ce soit le moment, juge Bruno Le Maire. Le feuilleton du mariage en vue d'un futur titan de l'industrie automobile avec plus de 15 millions de voitures vendues par an va donc continuer. Mais il faut d'abord donner des gages à chaque partie. Renault détient actuellement 43% du capital de Nissan. Le constructeur japonais possède lui 15% de Renault, sans droit de vote pour le moment.
Merci à vous Manon Derdevet. Drapeau en Berne, la ville des Sables-d'Olonne, en deuil ce matin après la mort de 3 sauveteurs en mer de la SNSM, dont la vedette a chaviré hier en pleine tempête. Ils étaient sortis pour secourir un pêcheur dont le bateau a chaviré. Ce pêcheur est toujours porté disparu. Le maire des Sables-d'Olonne, comme il se doit au chevet de ses administrés, pose d'ores et déjà la question du choix de ce professionnel de la pêche qui a pris la mer malgré les intempéries. Yannick Moreau.
Rien n'interdit aujourd'hui à un bateau de prendre la mer, y compris lorsque les conditions s'y opposent complètement. Hier, la mer était démontée. C'était un mur blanc d'écume, pas une tempête ordinaire. Le vent était relativement faible, ordinaire, mais la mer, elle, n'était pas du tout ordinaire. Et sortir alors que la tempête était annoncée, que tout le monde savait qu'il y avait une tempête, c'est assez irresponsable en réalité. Donc moi, j'espère que l'enquête qui a été diligentée permettra d'en savoir plus et j'espère qu'on réfléchira à l'avenir sur la question de la liberté de sortir à la mer dans des conditions pareilles.
Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, propos recueillis par Augustin Arrivé.
La bulle économique, Marie Viennot.
C'est aujourd'hui la journée mondiale des océans. Une manifestation est prévue à Paris autour de cette thématique et la bulle écho de ce samedi met le cap sur le trafic maritime qui croît sans discontinuer depuis 40 ans.
Nous sommes sous l'eau, à 3 km d'un navire marchand. Vous l'entendez ? Ce bruit, vous pouvez le multiplier par 94 171, soit le nombre de navires marchands actuellement en circulation sur les mers et les océans. Ce bruit perturbe la vie aquatique, la reproduction, il menace la biodiversité, mais il n'est pas près de cesser. Le trafic maritime a doublé de volume depuis les années 2000 et il doit poursuivre sa croissance, tension commerciale ou pas. Les pollutions qu'ils génèrent ne sont, bien sûr, pas que sonores et elles ont toujours été exclues de toutes les négociations internationales, notamment sur le climat. Comme le trafic aérien. Or, le trafic maritime émet autant de gaz à effet de serre que le parc automobile mondial. Comment est-ce possible ? En fait, la haute mer n'appartient à personne. Elle est régie par un principe de liberté, « freedom of the high seas ». Si bien que depuis des décennies, les océans sont considérés comme des poubelles. Poubelles pour le plastique, poubelles pour les fonds de cale, poubelles pour les compagnies pétrolières qui réservent au trafic maritime leurs carburants les plus sales. Les navires marchands ne naviguent pas qu'en haute mer. Ils longent aussi les côtes, ce qui causerait 400 000 morts prématurées chaque année, 1000 morts par jour. Des solutions il y a et hourra, après 12 ans de négociations, l'Organisation Maritime Internationale a réussi à mettre ses 174 pays membres d'accord pour réduire les émissions de soufre qui sont les plus nocives à court terme. Et l'échéance est courte, ce sera d'ici au 1er janvier 2020. Alors oui, on ne parle que de soufre, pas de CO2. Là, les discussions commencent à peine, mais il y a un objectif, réduire les émissions de 50% d'ici 2050. Ça n'est pas très ambitieux, reconnaît l'association Surfrider, qui combat depuis 30 ans pour la protection des océans. Mais sur ce sujet, on part de rien. 80% des échanges mondiaux passent par les mers et les océans. Sans trafic maritime, pas de mondialisation des échanges. Or, le commerce international a toujours été vu comme un vecteur de développement. Commerce, investissement, développement sont même réunis au sein de la même organisation internationale, la CNUSED. Cette logique en tête, freiner le trafic maritime ou le renchérir par plus de régulation revenait à freiner le développement. On a donc laissé faire le marché. Des règles existent, oui, comme celle sur le soufre et beaucoup d'autres. Mais qui contrôle leur mise en œuvre ? Qui impose des sanctions en cas de non-respect ? Eh bien, les autorités portuaires dans certains cas, mais le plus souvent, le pays où est immatriculé le bateau. C'est-à-dire le Panama, les îles Marshall ou le Libéria. Oui, ces 3 petits pays concentrent 42% du tonnage de marchandises transportées sur les mers. Les paradis fiscaux sont pointés du doigt, les pavillons de complaisance, eux, merci, se portent bien. complaisant pour les impôts, pour les conditions sociales à bord et pour le contrôle des régulations en tout genre, notamment environnementales. C'est un classique de la gouvernance internationale. On accouche dans la douleur de régulations dont la mise en œuvre reste entre les mains des États et les États sont souverains. L'Union européenne, qui possède 40% de la flotte mondiale, mais n'est pas un lieu d'immatriculation, Malte excepté, a tenté il y a 10 ans de créer un pavillon européen. Échec total, personne n'était vraiment preneur. Les associations qui militent pour la sauvegarde des océans espèrent que cette fois, la nouvelle Commission européenne mettra cette négociation de nouveau à l'ordre du jour. Mais force est de constater que ces questions aquatiques ne sont pas au centre du jeu politique.
C'est où George pour fermer cette bulle éco. Merci Marie Viennot. Le temps de ce samedi instable sur un quart nord-ouest, ailleurs du soleil, soleil voilé sur le massif central et dans les Ardennes. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducier, la technique Jean-Frédérix.